messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Qui s'allume, ça ne serait pas une causerie un dimanche soir à 22h, normalement une causerie, surtout si vous êtes déjà à l'antenne depuis un petit moment, vous nous avez entendu faire un pré-test pour une petite surprise qu'on va avoir, qui on espère va marcher. Donc vous êtes bien sur Radio Canu, la causerie, 22h-23h dimanche soir, 102.2, la plus rebelle des radios, tout ça tout ça. Autour de la table, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Et Stan.
Hey, salut. Et voilà. Voilà, et c'est tout. C'est déjà bien.
Et là, je vous abandonne, il faut que je connecte la surprise.
Salut! Oui. À tout de suite.
C'est ça, merci.
Voilà. Et donc, nous, on va continuer un petit peu la présentation pour rappeler que vous pouvez nous retrouver sur les blogs. Donc, sur les blogs de Radio Canu ou sur blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie tout attaché. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail.
Le mail, c'est donc lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com.
Voilà, et on est également présent sur Facebook, où n'hésitez pas à relayer, partager, voilà, pour nous faire connaître, c'est toujours bien, pour... si vous trouvez que c'est bien.
Ah oui.
Donc normalement, donc ce qui va se passer là, c'est Jean-Yves et Esteban.
Oui.
Je vais te laisser présenter tout ça.
Ouais, je vais vous présenter tout ça. On est en train d'appeler donc Esteban. Alors en fait, pour resituer un petit peu, Esteban, c'est un compagnon anarchiste qui habite au Venezuela, qui est en ce moment en France. Il est là depuis un petit mois. Certaines personnes l'ont peut-être déjà vu sur Lyon. Il y avait une soirée qui était organisée. Puis il a fait vraiment plein de soirées. Il a été organisé, invité à plein de soirées. Pour présenter justement alors un documentaire, on en reparlera peut-être, on verra si on a le temps ou pas. Ce que je voulais dire donc, c'est qui Esteban ? C'est donc un camarade anarchiste du Venezuela. Je vais juste le présenter vite fait avant qu'on lance le direct. Hein ? Ouais, faut y aller. Ok, donc allez, on y va en direct. Alors, est-ce que tu nous entends, Esteban ?
Esteban, tu l'as.
Esteban, tu nous entends ?
Très loin.
Ouais, c'est tout le problème de l'insert téléphonique. Ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas, on espère que bon, on puisse au moins peut-être discuter un petit quart d'heure.
Je vais m'éloigner un peu du festival.
Hein ?
Ouais, ce sera bien. Éloigne-toi de la musique.
Ouais, parce que comme je vous l'expliquais, peut-être le temps qu'il se déplace, là il est dans une soirée, comme il l'a fait sur Lyon et dans plein d'autres endroits, en Suisse aussi, parler de la situation du Venezuela, pour récolter aussi des fonds pour des projets au Venezuela, et en diffusant aussi dans les soirées un documentaire, c'est aussi apporter un regard anarchiste sur la situation du Venezuela. Donc on espère qu'on puisse le faire un petit peu, en tout cas ce soir avec Esteban. Est-ce que tu nous entends, Esteban ?
Là, je t'entends très loin. Mais tu m'entends bien, là ?
On t'entend aussi assez loin, mais je pense que là, on a atteint le maximum en capacité de nos machines.
Okay. Bah, c'est cool, on va faire comme ça, là.
Ouais.
j'ai un vidéo débat dans une demi-heure à 22h30 sur un ciné qui est installé sur un festival en Picardie. Et donc j'ai un stand depuis vendredi pour recollecter les fonds pour un centre culturel au Venezuela. Donc là pour justement je vais faire un topo sur Venezuela tout à l'heure. Vous pouvez aussi trouver une interview qui a été il y a le documentaire qui est disponible sur sur YouTube en cherchant sur Indie Media Venezuela. C'est le seul documentaire qu'il y a avec des sous-titres en français.
Oui.
Donc là, moi les dernières nouvelles que j'ai du Venezuela sont vraiment très mauvaises.
Oui.
Ça a changé. Là, il y a des militaires qui se sont soulevés. Et donc ils sont de messe avec le. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un super flic là qui a jeté des grenades et qui a tiré la mitraillette sur le ministère de l'Intérieur.
Oui.
Sur le tribunal suprême au début août.
Oui, c'est ça, le mec
donc,
est.
Là, en fait,
Vas-y, je vais pas te couper, on va te laisser parler, pardon, je vais arrêter.
En fait, le soulèvement, il est fait de messe avec ce gars, et lui, il est sorti en vidéo, avec un drapeau de la résistance, que la plupart c'est des gens de droite, mais c'est mélangé, parce qu'il y a, plein de gens de la gauche déçue, des anciens de Chavis, il y a les anarchistes, il y a des gens des quartiers, il y a tous ceux qui ont faim, en fait. Et là, lui, avec ce drapeau de la résistance, le symbole des émeutes, et en dessous, un drapeau fasciste d'un petit groupe néo-nazi qui a quelques années, qui avait déjà poignardé, c'est ceux qu'on est sûr que c'est les responsables du poignardage d'un ami anarcho-punk de Rachel, qui jouait dans Siete Balazos. Et donc là, ça a changé tout le panorama. Sur le Venezuela en fait, parce que on s'attendait à un coup d'état, mais on ne pensait pas que ça serait de l'extrême droite, quoi. C'est ce qui nous pendait au nez. Et donc là, moi je vais repartir là le 7, mais on verra si c'est possible. Ils ont remis les vols ont été annulés plusieurs fois par Air France pour la situation. Puis là en fait, il y aurait normalement 3 casernes qui seraient prises par ces gens. Ils ont volé une centaine d'armes dimanche dernier dans la plus grosse réserve d'armes du Venezuela. Donc là, ils ont récupéré une vingtaine de fusils. Les flics, là, ils sont en train de les rechercher partout. Donc là, je continue dans l'idée d'arriver au Venezuela, mais on verra comment ça va se faire. Puis j'essaye de me communiquer avec les amis, mais c'est assez compliqué les communications parce que il y a un des réseaux téléphoniques qui est du gouvernement, qui est le plus répandu, qui est le moins cher. Donc il a été saboté ou ils l'ont coupé, je ne sais pas. Donc c'est assez difficile de se communiquer tant par Internet que par le téléphone. Et ça a l'air d'aller. Est-ce que j'arrive à me connecter avec quelques personnes qui ont d'autres compagnies de téléphone et c'est la même situation, des morts et puis des embrouilles partout. Puis l'inflation qui est de pire en pire. Moi, quand je suis parti, le kilo de riz était à 5000 bolivars. Tu gagnais 5000 par jour. Là, maintenant, il paraît que tu gagnes 10 000 et le kilo de riz, il est passé à 17 500. Donc, c'est toujours impossible de se nourrir là-bas. Donc, voilà. Le niveau des infos que j'ai eu du gouvernement, c'est qu'ils sont à fond dans les mines. Ils sont en train de signer plein de trucs. Là, les Chinois, ils sont en train de ravager le pied du Salto Angel, c'est le saut de l'ange, c'est la cascade la plus grande du monde, qui était classée monument historique, c'est dans les 7 merveilles du monde. Et donc là, c'est un carnage, quoi. C'est pas très. Mais là, moi, quand j'arrive là-bas, on va essayer de bien se cadrer au niveau du réseau anarchiste, pour voir ce qui va se faire. Là, ça bouge déjà dans les quartiers. Et puis dans plusieurs villes, là on a pas mal de potes qui sont en prison et ils sont passés en tribunal militaire et là c'est pour 10 ans de prison jusqu'à ce qu'il y ait un changement de régime et qu'on espère qu'ils soient graciés, mais ils ont tous été torturés assez sauvagement à la mode militaire de Pinochet, vu que tous les militaires en Venezuela ont fait l'école des Amériques. Donc là c'est un tableau assez énorme. Quand il y a des noms, il y a de l'espoir. Hein. Donc, vous pouvez trouver des infos sur Indie Media Venezuela. On n'a pas encore pu mettre de traduction, de nouvelles traductions en français, mais il y a quelques articles en français, et sinon, avec des traducteurs par Internet, et d'en trouver un autre mal, ça permet de comprendre quelques articles. C'est dans l'espagnol assez simple, donc c'est, ça devrait être bien se traduire. Donc voilà. Sinon, tu as une question ?
En fait, pardon, justement, ce que je voulais, ce que j'avais dit en présentation, c'est que justement, en fait, c'est que les anarchistes au Venezuela, en fait, ils veulent pas avoir à choisir entre Maduro, l'extrême droite ou la droite qui est dans la rue, en fait, et qu'aujourd'hui, on est enfermé dans une sorte de critique binaire, en fait, de ce système. On est soit pro Maduro, soit on est fasciste, et que je voulais, enfin, justement, je trouve que c'est très intéressant que tu puisses apporter ton son, enfin, ta voix et je voulais aussi justement rajouter que le documentaire dont tu parlais, on va essayer de mettre le lien sur le blog de l'émission pour que tout le monde puisse le voir. Okay. Et que tout le monde justement se rende compte aussi qu'un gouvernement de gauche autoritaire est aussi prêt à détruire l'environnement et la vie de ses concitoyens, comme tout autre gouvernement.
Ouais, les gens ont un discours contraire, parce que tu vois très bien dans le documentaire le discours de Chavez dans son plan de gouvernement et aussi devant tous les dirigeants du monde à Copenhague. Et donc, tu vois le discours écolo, anticapitaliste, tout ça. Et à l'intérieur du pays, en chaîne nationale, donc obliger toutes les chaînes nationales à passer son programme. Il expliquait comment il allait exploiter 10% du territoire pour le développement social et économique du pays, en sachant que là, en bas de la carte, sur la terre, c'est que des communautés indigènes qui sont sur leur territoire, qui sont restées à... C'est des petits bouts de territoire qu'ils ont réussi à garder pour vivre. Et donc là, ils vont encore les bouger, quoi. Alors qu'ils ont un discours vraiment sur les droits indigènes, tout, mais c'est que du blabla, quoi. Comment nous, le futur au Venezuela, c'est le tribalisme. Hein, comme font les indigènes, et comme il y a pas mal de communautés, les paysans, c'est produire sa nourriture, se couper du gouvernement, ben là, en même temps, c'est la seule solution pour tout le monde au Venezuela, c'est la survie, vu qu'il ne peut pas acheter de nourriture, pour que tu cherches le plus vite possible à pouvoir manger de ce que donne la terre. Un des côtés positifs, c'est quelque chose qui s'est perdu. Dans le négatif, il y a toujours quelque chose de positif. Dans n'importe quelle catastrophe ou mauvaise situation, il y a toujours quelque chose à apprendre, et là, justement, les paysans se sont rendus compte qu'ils auraient mieux fait d'écouter les grands-parents et continuer comme ils vivaient, sans descendre à la ville pour se nourrir, sinon eux plutôt à nourrir la ville, quoi. Et là, ils nourrissaient la ville, là, ils revenaient avec des thunes, ils achetaient tout en bas, et là, maintenant, ils n'ont plus leur culture propre pour leur maintien, et là, c'est revenu à ça grâce à la crise, quoi. Et c'est le meilleur moyen de l'autonomie. Pour réussir à justement pas être pressionné par les gouvernements ni par les politiques, c'est ceux qui te donnent la bouffe et qui te la retirent, en fait. Ils tiennent vachement par ça et par les médicaments. Mais nous, il y a vachement de plantes médicinales. Et là, c'est tout le monde s'est replié là-dessus. C'est les côtés positifs de ce qui se passe au Venezuela. En plus, moi, c'est assez flippant parce que j'ai lu dernièrement, comme je voyage avec les vidéos débats. Là, j'ai travaillé un moment pour ma famille, pour revenir là-bas. Et donc, j'ai vu un économiste vénézuélien qui est réfugié à l'étranger, qui disait que la crise du Venezuela, c'est la pire qui a eu dans toute l'histoire. C'est même pire que la crise de Cuba, quand il y a eu le blocage, et que la dépression de 1929. Moi, je me doutais que c'était un truc vraiment trash. Ça fait des années qu'on vit un truc... On avait vraiment l'impression de toucher le fond, mais là... C'est vraiment très très dur pour tout le monde là-bas, et puis pour nous quand on reviendra, quand on retournera là-bas, là, on en profite pour bien manger, ma fille aussi, et puis pour trouver tout le soutien qu'on peut. Et puis là, c'est bien, j'ai vu que sur Internet qu'on a eu pas mal de soutien au niveau de groupes anarchistes, autant de France que d'autres pays, et donc ça va se manquer, parce que là, nous, là-bas, on galère depuis des années, en fait. On s'est tapé dessus par tout le monde. Que les chavistes disent qu'on est d'opposition et l'opposition dit qu'on est chaviste. Et donc, voilà, c'est cool d'avoir au moins quelqu'un de l'étranger. de toute manière, au niveau des populations, le contact avec les anarchistes est très bien passé. Et donc, il y a une bonne résistance dans la rue, dans plusieurs villes. Et tous nos camarades, nos compagnons sont présents tous les jours. Ceux qui ont des familles, ils ont dû partir, ils ont leur famille, ou leur famille, ils ont laissé partir pour réussir à les nourrir. Mais voilà quoi, on en est. Il y a des bons groupes de musique là qui coûte que coûte, qui continuent à dire ce qu'ils pensent et à essayer d'organiser des concerts. Maintenant là, les concerts depuis quelques années, c'est que dans des jardins privés. Donc des musiciens qui ont un petit espace dans leur jardin, ils organisent le concert, du bouche à oreille, sur Facebook, sans adresse, juste la date, puis après passe l'info, et c'est comme ça qu'on arrive à continuer à se réunir et à toucher des gens du quartier, puis de partout. Et là, on ne peut plus avoir de salle, vu que c'est les choisis qu'on a la plupart des fans. Et puis après, c'est tout politique, en fait. En Venezuela, ça fait des années que c'est tout politique. Si tu ne votes pas, en plus, nous, on ne vote pas. C'est pris en compte pour ton vote. Les partis politiques sont intéressés par les gens uniquement par le vote. Donc, et en plus, quand ça leur convient pas les élections, ils les manipulent, comme là ça a été prouvé encore une fois pendant la constituante. C'est une aberration face aux problèmes qu'on a au Venezuela. Donc le gouvernement détourne l'attention et essaye de refroidir la rue. Mais là, la rue, là en plus avec des militaires faciaux qui sont en soulèvement, c'est pas prêt de se calmer, quoi. Donc on espère que le bain de sang qu'il y a dernièrement ne va pas s'amplifier et qu'on va réussir à trouver une solution, une alternative bonne pour la majorité des gens dans la nécessité et résoudre ce problème, quoi.
Et Stéphane, j'avais une question, c'est Fabien, salut. Une question. Récemment, il y a Donald Trump qui a fait une sortie en disant qu'il était prêt à déployer l'armée américaine pour sauver des Vénézuéliens. Est-ce que pour toi, c'est juste une provoque pour encore une fois mettre de l'huile sur le feu, ou est-ce que tu as une crainte d'une intervention américaine au Venezuela?
Trump, en fait, c'est un gros taré et il sait très bien qu'il y a les Russes, les Iraniens, les Chinois qui sont en entraînement dans les Caraïbes depuis quelques jours, donc je pense que c'est vraiment un pauvre type, quoi. Ouais, donc c'est sûr que ça l'intéresse d'envoyer des troupes ici pour faire la guerre, vu que c'est leur business de tous les pays. De faire des guerres, pense que c'est un business du peu.
Ça, c'est clair. Les armes,
tu vends la médecine et tu fais la reconstruction, quoi. Donc lui, c'est un gros, ça prouve encore une fois que c'est un gros taré, quoi. C'est vraiment un pantin et un gros connard. Mais il va pas faire rigolo, je pense, au Venezuela, parce que les Russes, à chaque fois que les Américains approchent des bateaux de la côte, les Russes sont au taquet, quoi.
Et donc c'est
c'est que de la parlotte, quoi.
Pardon, mais alors moi, tu vois, par contre, je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y a d'autres pays qui... Il n'y a pas que les États-Unis qui ont un peu un regard comme ça sur le Venezuela, quoi.
Ah non, il y a le monde entier. Les Russes, ils sont à fond dedans. Les Chinois, ils ont le pays dans le creux de leur main, parce que le Venezuela doit je ne sais pas combien de millions de dollars aux Chinois. Et ils demandaient encore plus de prêts qui leur ont pas été acceptés. Donc là, les Chinois, ils sont en train de faire la razzia sur l'or et puis sur je ne sais pas trop quoi. Je pense qu'ils vont sûrement avoir du charbon, un peu tout. Il y a des diamants, il y a de l'or. Là, ils sont à fond sur l'or. Hein. En plus, dans un parc national qui est normalement protégé, avec un ministère de l'écologie, de la minerie écologique.
C'est beau, ça.
C'est aberrant. C'est vraiment une foutage de gueule, quoi. Mmh. Donc là, il y a beaucoup d'intérêt. Les Américains, ils ont toujours eu la main mise sur le Venezuela. Mmh. Ils ont toujours. Mais là, maintenant, il y a d'autres mains, il faut qu'ils partagent, quoi.
Mmh. Là, je trouvais que c'était intéressant que tu puisses le dire. Pardon, vas-y, je veux pas te couper.
Et vu qu'il y a les meilleures réserves de pétrole et puis il y a beaucoup d'or, là ils ont sorti 3 tonnes d'or pour la banque centrale du Venezuela. Et donc j'imagine que dans leur poche ils en ont mis au moins 1,5 tonne, voire 2. Donc c'est le pillage, quoi.
C'est la
les Russes, les Anglais, il y a il y a 140 multinationales qui font des concessions avec les entreprises mixtes que nous dénonçons avec les anciens de la Force armée de libération nationale, les compagnons des années 60, qui étaient communistes au départ, ont été rejetés par le communisme et maintenant ils se sont devenus anarchistes depuis plusieurs années. Donc ils nous soutiennent avec le journal, avec Libertaria. Ah oui, j'ai pas expliqué que moi je collabore avec le journal Libertario depuis 17 ans que je suis ici. Là je suis en France, mais depuis que je suis au Venezuela. Et mon organisation s'appelle La Libertaria, qui est le féminin de liberté, c'est le libertarien de la liberté. Mais moi j'habite dans les campagnes, je suis très loin de la ville, je suis le seul anarchiste dans mon coin, le seul quétain. Mais je travaille avec les paysans et ça va très bien. Donc, ça fait 9 ans, et on projette d'acheter un lieu avec les fonds qui vont être trouvés ici pour faire un centre culturel libertaire qui nous permettra aussi d'être un centre de ralliement pour toutes nos réunions, nos conférences, et puis, après faire des rencontres internationales auxquelles vous serez au courant, vous serez informé quand ce sera possible. Quand ça s'arrangera d'abord au Venezuela, ça va être difficile, mais ça va le faire. Puis nous, vu qu'on est dans la campagne, c'est un peu plus facile pour se bouger, parce que là-bas, l'armée ne se met pas trop, quand il n'y a pas de groupe armé. Donc, là, ils ont vachement de boulot dans les villes. Puis, vu qu'il y a couvre-feu, là, depuis, je crois qu'une semaine, ils sont tous déployés. Ils dorment quasiment pas dans les militaires, c'est pour ça qu'ils sont attaqués. Donc, c'est assez dur. Pour tout le monde. Et donc vous pouvez nous trouver sur Indymedia Venezuela. Il faut chercher sur notre page, c'est contrapoder.org.ve. Là c'est un portail anarchiste avec plusieurs organisations. Là il y a un peu tout le pays qui est représenté, autant la partie orientale du centre comme de la capitale, de la frontière colombienne, de la frontière brésilienne, il y a des groupes anarchistes un peu éparpillés dans tout le territoire.
Mais de toute façon, enfin, j'invite les auditeurs et auditrices à venir demain sur le blog de l'émission. On mettra tous les liens vers justement tous ces médias anarchistes, etc., qui finalement se retrouvent tout seuls au milieu de tous ces blaireaux, et que qu'il faut que nous aussi on soutienne et qu'on devienne aussi des prolongements de vos voix et de vos analyses sur le terrain, quoi.
Oui. Je recommande aux gens, s'ils pensent voyager au Venezuela, il faut vraiment qu'ils y pensent, quoi. Il faut vraiment bien y réfléchir. Là, justement, sur le festival, j'ai vu quelqu'un qui, quand il a su qu'il était au Venezuela, il y a une amie qui veut aller aider, faire de l'humanitaire avec là-bas pour donner de la bouffe aux gens. Donc j'ai dit qu'il fallait vraiment qu'elle fasse très très attention, parce que si elle n'est pas accompagnée en sortant de l'avion, il y a peu de chances qu'elle arrive en ville, quoi. Donc, si jamais quelqu'un veut l'aider physiquement là-bas, il vaut mieux qu'il se mette en contact avec Indymedia Venezuela ou avec des organismes qui vivent là-bas et qui sont sur le terrain, quoi.
Oui.
Parce que tu ne peux pas débarquer là actuellement au Venezuela, tu peux pas débarquer en touriste. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de touristes d'ailleurs. Mais, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Je ne recommande à personne. Mais s'ils veulent y aller, il faut qu'ils contactent quelqu'un et qu'ils soient pris en charge en sortant de l'aéroport.
C'est ça.
Avant de sortir de l'aéroport. Pour vraiment arriver à bon port. Là, c'est trop. Là, c'est une guerre civile. Hein. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a ces affrontements armés. Puis tous les gangs sont dans la rue, armés à dépouiller tout le monde, autant sur les barricades comme à faire des poses. Ils dépouillent tout, quoi. Ça, c'est vraiment. Puis t'as les flics et l'armée qui volent aussi. Tu te fais braquer autant par les gangs que par l'armée et la police.
Ouais.
Là, c'est le capitalisme total, quoi.
C'est ça. L'armée à la tête du pays.
C'est l'horreur.
Eh ben, je ne sais pas si tu voulais rajouter encore un mot, Esteban, mais si toi, dans 5 minutes, tu as une projection là où tu es, on ne voudrait pas te retarder.
Oui, moi ils m'attendent là-bas, puis il y a encore un groupe qui joue, Et je ne sais pas si l'ami qui faisait la performance avant moi, il va annoncer. Je ne sais pas ce qui est en train de se faire. Je sais qu'il y a un groupe qui joue. Je pense que la performance n'a pas encore commencé. Ouais, je vais y aller à l'heure pour.
C'est mieux. C'est mieux pour tout le monde.
Et là, j'ai pas mal rameuté les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce qui passe au Venezuela parce qu'en fait, il n'y a pas du tout d'information. Il n'y a pas du tout d'informations en Europe, parce que soit tu as la propagande du gouvernement,
c'est ça.
Avec ses partisans qui disent que c'est les plus beaux pays du monde, les socialistes, qui sont attaqués par l'impérialisme, mais ils ne parlent pas de tout leur fonctionnement corrompu avec les militaires pour piller le pays. Ils ont payé tous les fonds qui ont été envoyés pour faire les hôpitaux, pour faire les écoles, pour faire les routes, ont été détournés. Ou dans sa totalité, ou c'est 80%. Quoi.
Ouais.
Donc, tu as juste des petits bouts de routes qui sont faits ici, au Venezuela. Tu as des petits bouts d'écoles qui sont faits, tu as des petits bouts d'hôpitaux. C'est pour ça que tout tombe en ruine. Et que il se fait qu'à la vente du pétrole. Et avec la baisse du pétrole, puis tout ce qu'ils ont dépouillé, qu'ils n'ont pas fait de maintenance, ni du système électrique, de systèmes d'eau.
Pas d'investissement, rien, quoi.
Mais ils se sont remplis les poches, ils ont tous des comptes en banque dans plusieurs pays.
C'est ça.
Même aux États-Unis, ben justement, ils sont en train de leur congeler pas mal de comptes. Et c'est le malade.
Ben en tout cas,
c'est vraiment bizarre, là. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici, j'ai réussi à m'adapter, mais. C'est vraiment quelque chose de malade. Surtout moi qui ai vécu en France et qui suis allé là-bas en sachant que ça a toujours été violent au Venezuela, mais là, une crise économique comme ça, moi j'ai jamais vu ça. Même quand j'ai voyagé dans les pays de l'Est, dans la mouvance froide et tout, l'époque après le mur de Berlin, même les pays de l'Est, c'est pas comme le Venezuela actuellement. Quoi.
Eh bien Esteban, on te remercie vraiment, on te souhaite bon courage, si tu peux passer notre bon courage et nos salutations à à toutes celles et ceux qui luttent au Venezuela, n'hésite pas, ça ne changera pas grand chose à leur vie, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul et si on peut faire le relais de vos paroles, vraiment n'hésitez pas, par l'écrit, par n'importe quel moyen.
Ça serait bien que vous, en tant qu'organisation, vous fassiez une carte et vous me la passez et puis j'envoie sur les listes de discussions qu'on a au niveau national et international.
Ouais,
on est en réseau sur des listes de discussions. Donc là, c'est le meilleur moyen pour faire. Justement, il y a pas mal de groupes anarchistes du monde qui nous ont envoyé des cartes écrites collectivement. Et ça fait vraiment du bon au cœur.
Ah ouais, ça change pas tout, mais au moins.
On s'est vraiment attaqué même par des anarchistes espagnols ou. Il y a pas mal de la gauche européenne qui disent qu'on est des fascistes.
Ben oui, évidemment, c'est tellement plus simple.
On lutte contre un gouvernement soi-disant socialiste et révolutionnaire.
C'est ça.
Mais eux, quand ils font pas la révolution leur arriver dans la face, ça va leur faire bizarre. Parce que ça fait tant d'années qu'ils ont sali le mot révolutionnaire.
Oui.
Ils vont savoir plus bien.
Merci beaucoup Esteban. On mettra tous les liens vers le portail des différents sites, etc. vénézuéliens sur le blog de l'émission. On mettra le documentaire, etc. pour que on puisse participer avec toi à notre échelle à la diffusion de cette vision anarchiste et de cette lecture anarchiste de ce qui se passe au Venezuela. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et on est en contact et puis hasta vencer jusqu'à. Jusqu'à vaincre. Moi, je dis toujours que la vie, c'est comme la lutte, quoi. Ou la lutte, c'est comme la vie, ça se termine seulement quand nous attrape la mort. Et donc, on n'a pas d'autre chemin. Puis là, justement, c'est une bonne conjoncture au Venezuela, vu qu'il y a on arrive sur des ruines. Là, on est sur un pays en ruine. Donc, justement, comme disait Dorothy, on n'a pas peur des ruines. On a toujours travaillé la terre, on a toujours travaillé la construction. Les anarchistes ont toujours été ouvriers, même ceux de la ville, hein, toujours travailleurs. Et les paysans, tous ceux qui n'ont pas besoin de gouvernement, quoi, qui travaillent, qui gagnent leur salaire, la fin de leur fonds, on n'a pas peur des ruines. Et là, on est sur les ruines. Justement, c'est le moment d'être au Venezuela. façon, c'est vraiment le moment d'être au Venezuela pour. C'est un peuple qui a toujours lutté. Ils ont une culture indigène vraiment très forte. C'était avec les Mapuches et quelques autres pays, ça a été vraiment les résistances très très fortes. Et ils ont toujours leur mode de vie et c'est la seule solution, c'est le tribalisme. Pas de nationalisme, comme on disait à l'époque avec traumatisme, pas de nationalisme, tribalisme. Et c'est la seule solution, la décentralisation. Et puis surtout, voilà, tous ces politiciens, tous ces partis de merde, la merde partout. Quoi.
Ben,
on est en contact et puis on se retrouve dans la rue ou sur le réseau.
Ou sur les réseaux. Ça marche, merci, ouais. Merci beaucoup.
Ben, moi je passe bientôt vers Lyon. Je vous tiendrai au courant, je serai vers le 21 août au Buget vers Lyon.
Ah ben. Et ben voilà les auditeurs et auditrices de Radio Canu qui seront au courant, ouais. Qu'on pourra te retrouver et qui elles pourront te retrouver. Merci.
Ouais, et après je suis dans la vallée de la Roya, là où j'habitais les dernières années, et après je remonte par la Bretagne, je serai à Nantes, à Rennes, fin août, avant de partir au Venezuela. Et je serai en Picardie le 2 septembre et le 6 septembre avant mon départ au Venezuela, je serai au Cirque électrique à Paris.
Eh bien, un gros programme encore pour toi et on invite tout le monde à venir à ta rencontre. Merci, merci beaucoup Esteban.
Bah, merci à vous.
Bonne soirée à toi et bon courage.
Salut à tous.
Merci, merci. Salut.
Ciao. Waouh! Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de la causerie après le témoignage d'Esteban. On s'est écouté donc un bon titre de punk ou de metal, je ne sais pas.
Du punk,
on est d'accord. Du Venezuela, donc c'était Mar de Rabia avec le titre Mutuo Ops Acuerdo. J'espère que je.
Non, c'était bien.
Merci, j'ai fait de mon mieux. Eh bien, on continue donc cette causerie avec un format un petit peu plus basique. Plus habituel.
Alors monsieur ramène des trucs haut de gamme et nous on fait du basique.
Hein, bah, on est décevant.
Ah, c'est classe.
Moi, je me sens décevant là.
Ah, franchement. Non mais franchement quoi.
Vous pouvez vous coucher. Maintenant non. C'est la partie moins sympa de la
Mais causerie. Mais non, c'est pas vrai. On va parler de choses encore très intéressantes dans cette demi-heure qui nous reste.
On va essayer en tout cas.
Et c'est Fab, en fait toi tu vas nous parler de virginité, mon amour.
Ou la fin d'une carrière pour Justin Bieber.
Il l'a fait. Non, bah, vous savez qu'on est le 13 août, hein, si ma mémoire est bonne aujourd'hui.
Oui.
Donc mardi, nous sommes le 15 et donc c'est la fête à Marie.
D'accord, donc t'as vrillé en fait.
Ouais, non, pas vraiment. Okay. En fait, ce qui me fait rire, c'est que donc dans les médias, tout ça, on vous balance ça comme si c'était alors normal et logique de dire bah, tiens, c'est la fête à Marie, c'est la fête à la Vierge, enfin à la Sainte Vierge, parce que ouais. Voilà. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé, après avoir lu un témoignage d'une Espagnole qui expliquait qu'en fait, en Espagne, aujourd'hui, il y a un grand retour de la virginité comme valeur cardinale. Donc, c'est, voilà, elle fait le jeu de mots avec cardinaux, cardinal, vous voyez, elle est très très drôle. Non, le texte est très bien et elle explique qu'en fait, bah, elle ressent, elle a 20 ans, hein, que, bah, en fait, par rapport à ce que lui raconte sa mère, même, sa mère qui a connu la Movida, c'est-à-dire l'après-franquisme, bah en fait du coup, c'est assez étrange parce que elle a l'impression que bah ils sont plus réac à son époque, à elle, enfin et même ses amis à elle, que ne l'était sa propre mère et les amis de sa mère. Vous voyez, c'est un petit peu le truc qui la surprend. Et donc elle dit, bah par exemple qu'elle a, elle explique qu'elle a 5 à 7 amis autour d'elle, des amis proches, et que sur ces 5 à 7 amis, donc c'est toutes des filles, hein, enfin des filles, des femmes, pardon, parce qu'à 20 ans on est une femme. Et ben en fait, elle en a quand même 5 qui veulent rester vierges jusqu'au mariage. Et ça l'a vachement choquée parce qu'elle s'est dit mais c'est quand même étrange que en 2017 on ait envie de rester vierge jusqu'au mariage et que ce soit redevenu cette espèce de valeur cardinale de s'offrir pure à son futur époux. Voilà. Elle a un petit peu un défaut, comme elle le dit, c'est qu'en plus elle est bisexuelle, donc déjà elle est un peu, elle est un petit peu dans un mouvement plutôt bizarre parce qu'elle est dans une ville plutôt un peu réac, elle le sait, et elle a des amis qui sont pas vraiment réac, mais pas vraiment totalement ouverts non plus, et qui ont quand même cette idée-là un peu saugrenue pour elle d'aller jusqu'au mariage avec en étant vierge. Et elle s'est demandé un petit peu si c'était partout pareil en Espagne. Donc elle a lancé son truc sur Facebook parce que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est un peu devenu un moyen aussi de sonder les gens et autour, et elle s'est rendu compte que dans les témoignages qu'elle avait en retour, que c'était pas si rare que ça, et que même dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone ou Séville, on pouvait avoir des gens qui disaient bah oui, il faut revenir aux valeurs catholiques, il faut revenir, voilà. Alors rappelons quand même quelque chose déjà dès le départ. Cette histoire de virginité chez les cathos, c'est pas très très vieux, contrairement à ce qu'on croit. C'est
ça a pas 2000 ans.
Non, c'est pas arrivé avec Jésus. Ouais. Voilà, c'était un peu après. C'est arrivé en fait avec la filiation des rois. Et oui, parce que le pape était devenu une espèce de registre des rois et des reines, et puis des princes, des barons, enfin tout ce qui traînait dans le coin. Et c'est un petit peu les églises qui servaient un petit peu de registre pour savoir si l'enfant était un enfant légitime ou un bâtard. Et ils avaient trouvé un excellent moyen d'être sûr que l'enfant soit bien du roi, c'était que l'épouse soit vierge. Et c'est un peu, voilà. Et en fait, c'est là que le culte de Marie est réapparu plutôt dans la culture catholique et dans le mythe catholique. C'est à cette époque-là qu'on a remis Marie en avant. Marie qui, je vous le rappelle, était vierge au moment où elle est tombée enceinte de Jésus, et vierge une fois qu'elle l'a accouché de Jésus. Donc c'est un truc balèze. Dieu est hyper cool. Il remet tout en place.
C'est un bon chirurgien.
Il remet tout en place. C'est tout, voilà. Et en fait, cette valeur-là, elle a été remise en avant vraiment pour qu'elle devienne une sorte de valeur de pureté, mais pas une pureté au sens qu'on pourrait croire, tu m'appartiens. Non, une pureté dans le sens où ma filiation, elle est assurée. Vous voyez, c'était pas l'idée quand même de dire, voilà, la femme, on s'en foutait un peu, hein, les reines, les princesses, tout ça, à part chez Disney, ça se passe bien, mais ailleurs, c'était pas trop le top, hein, à l'époque. Vous voyez, on pouvait mourir aussi, les femmes et tout. Je vous rappelle juste comme ça que c'est dans cette continuité-là que l'église anglicane a été créée par Henri VIII, parce qu'il voulait divorcer et que le pape interdisait le divorce. Et que donc il s'est dit, je vais faire ma propre église, vous voyez, bon. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, la virginité n'est pas vraiment une valeur cardinale, vu que du coup, lui, il n'en avait pas trop besoin. Vous voyez, c'est celui qui était le chef de l'église anglicane, voilà. Donc on voit quand même que c'est culturel, mais c'est aussi religieux. Et dans les religions, bah, ça va un peu dépendre de si on en a besoin ou pas, d'un point de vue filiation, en fait, voilà, c'est ça en fait l'idée. Il faut savoir que dans le culturel, ça remonte à très très vieux, parce que il y a des archéologues et des historiens qui ont un petit peu creusé la question, et on sait par exemple que la virginité était une vertu dans l'Égypte ancienne. Voilà, c'est qu'il fallait épouser des vierges, c'était comme ça. Et d'ailleurs, l'excision était aussi pratiquée, c'est ce que nous expliquait Gams déjà à l'époque de l'Égypte ancienne. Et en fait, les deux étaient un peu liés, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une femme pure, excisée et vierge. Pourquoi? Bah parce que c'était exactement le même problème en fait que celui qu'on vient d'exposer, c'est que l'Égypte dans l'Égypte ancienne, c'est une des premières civilisations qui avait mis en place une filiation, c'est-à-dire qu'on pouvait hériter de sa mère ou de son père. Alors la mère, on était sûr à peu près de qui c'était parce qu'il y avait toujours un témoin d'avoir vu accoucher, voilà. Le père, ben pas vraiment. Donc le fait d'avoir arrivé une femme vierge au mariage et de consommer très très vite le mariage pour être sûr qu'elle tombe enceinte, l'idée était là, c'était de dire comme ça on s'assure un peu la filiation. Bon, c'est un peu de la connerie sur le papier quand on y regarde bien, mais ça rassurait ces messieurs. Hein, voilà. Donc c'est vraiment, on voit toujours une logique en fait qui est derrière, cette logique d'appropriation de l'autre. C'est-à-dire que l'autre t'appartient, il doit donc être immaculé et vierge. Alors c'est un peu contradictoire parce que dans le même temps, on veut pouvoir avoir une femme vierge qui saigne au moment du premier acte sexuel. Par contre, on dénigre toujours les règles. Vous voyez, ce truc un peu surréaliste, mais ça nous vient aussi des écrits, là, Adam, Ève, tout ça, elle mange la pomme, pas Adam, enfin, vous voyez, toutes ces conneries. Et ben, ça vient de là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, les gens ont cru que, au moment des règles, dans plusieurs civilisations, y compris en Europe, au Moyen-Orient, dans les civilisations aussi asiatiques, on a cru que les règles étaient une reconstruction de l'hymen et qu'en fait, on retrouvait un hymen frais et qu'on pouvait du coup être sûr que sa femme était de nouveau vierge. C'est un truc un peu surréaliste là aussi, mais on va dire que c'était l'époque. Hein, voilà. Mais toujours avec cette idée de pureté, la femme doit être pure. Alors, on va être clair, hein, c'est pas demandé aux époux. Hein.
C'était ma question.
Ben, nulle part, en fait, il n'est demandé aux époux, aux épouses d'être, aux époux, pardon, d'être vierges. C'est pas écrit. C'est recommandé, mais c'est pas demandé. Ben, pourquoi? Parce qu'on estime que l'homme, lui, il est pur parce qu'il a jamais croqué la pomme. Voilà. Et que donc, après tout, si lui, il est pur, il peut bien aller voir un peu ailleurs. Tant qu'elle est vierge au mariage, ça va. Ouais, voilà. Bon. Après, ça va dépendre un petit peu des cultures, des religions, tout ça. Mais ce qui, moi, m'intéressait dans cette histoire-là, c'est donc que c'est un indicateur assez flagrant du retour du réactionnaire autour de la sexualité et autour de la vie. Parce que si on a de plus en plus de gens qui disent « moi, j'ai envie de rester vierge jusqu'au mariage », il y a plusieurs raisons. Et j'ai un peu cherché, parce que je me suis dit « c'est quand même pas juste religieux, faut quand même pas déconner ». Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, il y a le retour du religieux, effectivement, quand même, qui est bien marqué. C'est pour à peu près un tiers des jeunes aujourd'hui qui retrouvent un sentiment religieux fort, dit comme ça. Donc, c'est pas rien, un tiers des jeunes, hein, quand même. Hein, ça fait une personne sur trois. Une autre partie, c'est la peur des maladies. C'est-à-dire qu'il y a le côté « moi, je veux être sûr de me marier, j'ai pas envie d'attraper quelque chose, j'ai pas... » Voilà. Donc, ça c'est ce qu'explique très bien des médecins, c'est que moins on fait de campagnes de prévention et de dédramatisation, et plus en fait on a de peur des maladies, parce qu'en fait on vous apprend juste à l'école, attention, si tu fais l'amour, tu vas pas mourir. Ouais, c'est un petit peu dommage de prendre les choses comme ça. Et puis, en fait, il y a aussi un phénomène qui est assez étrange, c'est la vraie demande qu'il y a de plus en plus des hommes d'être sûrs du pédigré des gens qu'ils épousent. Et ça, c'est pas lié aux religieux, c'est vraiment culturel, c'est le retour vraiment d'un patriarcat très archaïque qui revient. Et les études qui ont été faites, même les gens qui les ont fait ont été assez surpris d'avoir des jeunes hommes qui ont entre 15 et 25 ans qui disent « moi, je veux que la femme que j'épouse, je sache ce qu'elle a fait dans sa vie ».
Le mec, il demande la fiche de paye et la fiche de vierge.
Et voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est limite le CV, quoi. Je me suis dit, mais c'est fou comme truc, quoi. Comme vision du monde, en plus, c'est assez horrible. Et en fait, oui, c'est un vrai retour du patriarcat. Alors, il y a des gens qui disent que c'est ce qu'on appelle le contre-coup des féminismes. Alors, ça veut pas dire que les féministes sont coupables, hein. C'est pas du tout le sens de cette phrase-là. C'est qu'en fait, il y a des mecs qui, en fait, décident de lutter contre le féminisme. Ce sont des masculinistes. Et qui passent, en fait, des idées complètement patriarcales et complètement rétrograde dans la tête, y compris de jeunes et puis parfois dans leurs enfants. Parce que c'est papa qui leur dit des fois, vous voyez.
Oui, c'est une forme de contre-révolution, en fait,
oui, c'est
conservatrice,
ça.
Réactionnaire.
C'est ça.
Comme il y a très souvent, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans une société qui avance, on va dire, de manière progressiste, émancipatrice, etc., y a souvent quand même un retour de bâton qui s'appelle la réaction.
C'est ça.
Et qui est quand même très souvent là, quoi.
Le changement fait toujours peur, et donc il y a toujours des gens qui sont en flip complet et qui font des conneries.
C'est ça. Et donc, du coup, en fait, on est vraiment là, on voit cette vague réactionnaire, on la voit au niveau politique, de toute façon, des gens comme Trump, on en parlait avec Esteban juste avant, ou même des gens comme Macron qui se font élire en disant ni de gauche ni de droite, mais qui sont très à droite finalement. Enfin, vous voyez, on voit que la réaction, elle s'installe et qu'elle est palpable, quoi. Mais ça touche, y compris les mœurs, qu'on pensait en fait être un petit peu protégées, dans le sens où les gens disaient, bah, on a quand même bien avancé, donc il n'y a pas de raison qu'on revienne en arrière, en fait, si. Et ça rejoint, en fait, justement, les jeunes qui vont s'engager contre l'avortement, ou des choses comme ça, et qui sont pas si peu nombreux qu'on ne le pense. Voilà. Et donc, moi, je voulais juste profiter de l'instant que j'ai pour rappeler deux, trois trucs. La première, c'est que la sexualité, c'est comme le vélo. C'est à la première fois, on se casse la gueule, c'est pas très bien, et en fait, c'est pas grave. Donc, non, ne sacralisez pas votre première fois, elle va être merdique. Je vous le dis, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Des fois, ça se passe bien quand même, c'est comme le vélo, il y a des gens qui arrivent du premier coup. Hein.
Oui, c'est ça, non, mais oui, ne décourage pas tout de suite.
Non, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est effectivement comme le vélo, faut remonter dessus. Oui. C'est-à-dire qu'il faut pas s'arrêter, il faut continuer, il faut essayer. Et puis, des fois, on n'est pas obligé de garder le même vélo toute sa vie, quoi. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'il faut, vivre, il faut ne pas avoir peur de vivre, que ce n'est pas grave. Il faut pas sacraliser. Pour moi, je le dis. Alors, faites ce que vous voulez de vos vies. Mais moi, je vous dis, plus vous sacralisez des choses qui ne ressemblent à rien, finalement. Parce que un bout d'hymen, ce n'est rien, je le rappelle. C'est juste un truc physique qui est à l'intérieur. C'est pas dramatique. Vous pouvez le perdre autrement, d'ailleurs, que par la sexualité, en faisant du cheval, ou par votre propre sexualité, par l'auto-sexualité, comme on dit, la masturbation. Donc ne paniquez pas, voilà, ne soyez pas, et surtout n'oubliez pas une chose. Oui, il y a des maladies, oui, il y a des trucs comme ça, mais il y a aussi des moyens de s'en protéger. Il y a aussi des moyens de s'amuser sans se faire de mal. Il y a aussi des moyens aussi de se respecter, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'accepter tout, on peut dire non, mais simplement, bah, ne passons pas d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, n'allons pas croire que qui refuserait la virginité serait forcément quelqu'un qui se laisse coucher avec n'importe qui, et que de l'autre côté on aurait la pureté, parce que ça, ce n'est que le schéma qu'on nous a vendu pendant des siècles, et ça ne sert strictement à rien. Et je le rappellerai juste comme ça, les plus grandes catins ont été souvent celles qui ont changé l'histoire. Voilà.
C'est beau comme ça.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'était dans ce sens-là. C'est effectivement, c'est vierge ou salope, alors soyons toutes des salopes. T'es pas de mon avis, Stan? Ah bah tu vois.
Voilà. Non, réaction, question?
Non, bah de toute façon c'est oui, c'est une forme de retour de la réaction, et que on l'a déjà vu, et que après c'est aussi alors effectivement il y a les meufs, mais et c'est les mecs aussi. Questionnez-vous à un moment donné, vous voulez quoi en fait? Si vous voulez un petit chien, achetez-vous un petit chien en fait, hein. Parce que votre compagne ou votre compagnon, c'est pas votre petit chien, c'est pas un animal de compagnie, non, c'est un humain avec des envies, avec une vie, avec tout ce qui lui appartient, et tout ce qui, enfin, et que vous avez pas vous n'avez pas à la dominer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en voulant qu'elle soit vierge, qu'il soit vierge. Enfin, c'est quoi ces conneries, quoi? C'est vraiment la vie de nos grands-parents, ou arrière-grands-parents, quand même, quoi, qui revient.
Et contrairement au vélo, on ne met pas d'antivol sur un être humain.
C'est vrai. Et que des fois, je voulais chier, je voulais faire une blague. Eh ben, on peut aussi faire du tandem, des fois.
Oh. Ah, c'était beau.
Allez.
Bon, bah là, je crois que musique, quand même.
I'm
Et vous êtes bien de retour dans la causerie sur Radio Canu le dimanche de 22 à 23 heures. Et c'était les Bikini Kill avec I Like Fucking. Bah ouais, parce qu'il faut le dire. Continuons cette émission ce soir qui a un format un peu bizarre, mais du coup on va y arriver. Stan, tu avais prévu une petite chronique sur un jeu vidéo, je crois, et sexisme.
Ouais, mais d'abord je vais commencer par une grande interrogation. Sérieusement ? Genre vraiment ? Là après on va annoncer que la causerie s'arrête pendant 15 jours et on finit par moi ? Par Stan, le saltimbanque qui parle de Google, Facebook, Google, Facebook, ou Google, ou Facebook, voilà. Je pense que vous aimez pas la causerie, moi. Voilà, c'est juste ça, j'ai juste envie de... Voilà. En plus, ça nous permettait d'être sûr de le dire, que la causerie sera en pause pendant 15 jours.
Oh bah t'inquiète, on va l'envoyer.
Non, voilà, je vais vous parler d'une étude qui cherche à établir un lien entre les jeux vidéo et la vision sexisme du rôle de la femme chez les adolescents. C'est une étude qui a été co-signée par 5 personnes, mais on va surtout parler de Laurent Beg et Elisa Sarda, qui sont les deux plus investis dans cette étude. Le nom de l'étude, je vous la fais en français, Exposition aux jeux vidéo et sexisme dans un échantillon représentatif d'adolescents. Alors c'est pas une petite étude, hein, c'est un bon gros truc là pour le coup, on s'est pas moqué de nous. 13 520 élèves répartis enfin, de 11 à 19 ans de la région Grenoble et Lyon. Donc je trouvais ça sympa d'en parler, parce que c'est vraiment là, c'est autour de nous. Et donc bah, ça demande de répondre à quelques questions, à 4 questions pour être précis. La fréquence et la pratique, la fréquence de la pratique de jeux vidéo, le temps passé devant la télévision, DVD, etc. La religion et le niveau de diplôme du père. Voilà. Juste, voilà, le niveau d'études du père, pas la mère. La mère, on s'en fout. Dans une étude pour le sexisme, c'est quand même un peu balèze de se dire qu'on peut se passer de ça. C'est pas comme si ça pouvait aussi permettre de prendre un ensemble et de pouvoir mieux comprendre, identifier, etc. Non, non, juste la mère, on s'en fout, on passe à la suite. Allez, zouf.
C'est énorme. Bon.
Donc, c'est une étude qui a été très critiquée par Yvan Godet. Alors, Yvan Godet, c'est le directeur de la rédaction de Canard PC, ce qui est un magazine de jeux vidéo, mais qui est aussi un intervenant assez régulier de l'émission Arrêt sur image. Donc, qui fait un peu du fact-checking. Et il revient assez longuement sur cet article. Dans un article qu'il fait lui-même sur Canard PC, donc qui s'appelle Psychologie, sexisme et jeux vidéo. Il se plaint de l'intégralité des points, en fait, et remet en cause l'étude, qui, dans sa globalité. Il se plaint déjà d'une première chose, c'est qu'à aucun moment on parle de type de jeu. Quel jeu? Enfin, de titre, de tout ça. Bah, voilà, ok, les gens ils jouent à des jeux vidéo, mais ils jouent à quoi? Ils jouent à Tetris, ils jouent à Mario, ils jouent à. Enfin, voilà.
Ouais, parce que c'est pas la même chose de jouer à Candy Crush sur son portable que d'aller jouer à.
Voilà, est-ce que jouer à Candy Crush ça peut avoir une influence sur ta vision de la femme? Enfin, bon. Sauf que le problème c'est que l'étude en fait part du principe que oui, c'est bon. Les femmes dans tous les jeux vidéo sont représentées de la même manière. C'est une étude qui a été faite il y a 20 ans, donc c'est vrai, c'est toujours vrai. Alors que c'est un domaine qui évolue énormément, et même si j'en ai parlé pendant ma chronique sur l'E3, que les changements sont lents et que c'est pas encore complètement nickel, on peut pas se baser sur des études qui datent d'il y a plus de 10 ans en moyenne. Il y a aucune étude qui a été utilisée qui date après 2010. Il y en a même une qui est utilisée pour dire que la représentation de la femme est identique. Celle qui dit ça, c'est celle de 98. Donc voilà, on utilise une étude d'il y a 19 ans pour dire que si, les femmes elles sont représentées comme ça dans les jeux vidéo, ça n'a pas changé. Ok. Je dis pas que l'image de la femme elle est nickel dans les jeux vidéo, hein. Loin de là, hein. Il y a encore beaucoup 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 de choses à faire et il faut changer ça, c'est sûr. Mais on dit juste que la base de travail de cette étude elle est complètement faussée en fait. On se base sur des choses complètement dingues. Et même sans parler de type de jeux vidéo, donc sans dire oui parce que ça a son importance comme on a dit, mais sans même parler de type de jeux vidéo, on cherche pas à savoir si l'enfant il joue à des jeux prévus pour son âge. Je m'étais dit aussi, ça a son importance. Si un gosse de 11 ans qui joue déjà interdit au moins de 18 ans, ouais, ça peut avoir une influence, mais est-ce que, c'est peut-être juste parce que, c'est pas son âge, donc il peut pas comprendre, donc il interprète des choses. Bon. Voilà. Donc déjà, je trouvais que la base du truc, et Yvan Godet en parlait très bien, en disant que c'est totalement foireux comme étude. La base de l'étude est foireuse. On va parler des résultats. On va parler des résultats de cette étude, et on découvre, waouh, magie, corrélation entre les jeux vidéo et le sexisme. C'est totalement inattendu, hein, surtout quand on écoute la doctorante en charge de l'étude, donc Elisa Sarda. Il y a des études sur l'impact positif du jeu vidéo, par exemple sur les représentations mentales ou sur l'attention. Je ne me suis pas encore intéressé aux aspects positifs parce que c'est compliqué de se pencher sur tous les aspects, mais ça m'intéresse de le faire quand j'aurai un peu plus de temps.
Elle est bonne celle-là.
Ouais, je suis étonné quand on part avec un a priori aussi positif sur le jeu vidéo qu'on trouve une corrélation. Non, soyons sérieux. On sent très très bien que dans toutes les personnes qui ont fait cette étude, ils partent avec un a priori hyper négatif, et ça se voit bien dans ce que je viens de citer. Elle vient quand même dans un truc où elle dit clairement c'est négatif. Après, soyons honnêtes aussi, pour côtoyer clairement le milieu, oui, c'est pas étonnant qu'il y ait une corrélation quand même qui existe, hein, j'en ai déjà parlé.
Oui, mais est-ce qu'elle est plus forte entre le jeu vidéo, par exemple, que les gens qui jouent au foot?
Eh ben ça, c'est pas dans l'étude.
Voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la société, elle est ultra sexiste. Donc, je vois pas pourquoi, finalement, les jeux vidéo, le cinéma ou n'importe quoi seraient exclus de la société, vu que ça en fait partie.
Mais ça, c'est. Mais c'est une certitude. Tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il y a sûrement une corrélation, oui, et puis que c'est un milieu comme dans d'autres milieux où il y a un espèce de machisme un peu gerbant, un peu latent. Ouais. Voilà, mais plus qu'ailleurs. Je ne sais pas, et puis c'est pas indiqué non plus dans cette étude.
Mais alors du coup, elle sert à quoi l'étude? Parce qu'elle compare à rien.
Je sais pas. Moi, j'ai toujours pas compris. Je vais continuer là-dessus, hein, dire que en plus des corrélations, c'est bien beau, mais une corrélation, ça peut être aussi très très foireux. Hein. La raison, si je m'endors avec des chaussures, j'ai vachement de chance de me réveiller avec mal à la tête. C'est pas du tout parce que je m'endors avec des chaussures. C'est juste parce que j'ai eu une gueule de bois, j'ai beaucoup trop bu, j'ai eu la flemme, et puis j'ai mal à la tête à cause de l'alcool. Ça, c'est une corrélation. C'est parce qu'il y a une cause qui est ailleurs. Et ben là, c'est pareil. C'est qu'il y a sûrement une cause, et voilà, la cause, c'est quoi? Enfin, on parle pas de cause, là. L'étude en parle dans la partie texte de l'étude, elle dit qu'on a une corrélation, mais qu'on n'a pas la cause. Donc on ne sait pas si c'est de l'isolement, si c'est du harcèlement, si c'est tout ça qui fait que, oui, il y a une corrélation entre les jeux vidéo et le sexisme. Donc on revient quand même, parce que j'ai pas été super clair, peut-être. L'étude, elle indique bien qu'à la fin, oui, les gens qui plus y jouent, plus ils ont tendance à être sexistes. C'est un petit peu ça la corrélation de la chose. Mais elle détermine à aucun moment la cause. Mais le vrai problème, c'est que ces intervenants, les scientifiques qui ont co-signé cette étude, eux, en off, donc dans les interviews, etc., ils disent « Non, mais c'est bon, s'il y a corrélation, il y a cause. » Parce que toutes les études avant, elles ont déterminé que les jeux vidéo étaient la cause du sexisme, en partie chez les adolescents. Mais dans ce cas-là, votre étude, elle sert à rien. Si vous déterminez juste une corrélation et si vous vous basez sur le fait que d'autres études ont déjà dit que c'était la cause, bah ouais, c'est cool, mais on le savait déjà. Enfin, vous le saviez déjà, parce que bon, nous, on n'est toujours pas d'accord. Mais et en plus, bah oui, vous remettez en cause aucune des études qui ont été extrêmement critiquées à l'époque, qui ont justement déterminé ça. Et bah, c'est pourquoi vous ne les critiquez pas, parce que vous utilisez celle de Laurent Beck, qui est co-signateur de l'étude en cours. Donc oui, utiliser une étude d'un mec qui dit que la cause du sexisme ou de la violence, c'est les jeux vidéo. Bah ouais, à la fin, c'est à peu près normal de se dire qu'il y a une corrélation entre les deux et que. Mais voilà. Mais enfin, dans tous les cas, votre étude, elle sert à rien. Parce qu'elle ne détermine rien. Elle n'indique rien. Voilà. Et.
Il s'est perdu dans sa fiche.
Ouais, je me perds toujours. Mais en plus, je ne l'aligne pas vraiment la fiche, alors c'est un peu compliqué. Je vais juste, donc, la question qui sert d'indicateur, parce que c'est aussi ça qui est un petit peu marrant, la question qui servait d'indicateur pour savoir s'il y avait bien une corrélation, il fallait répondre, en n'étant pas du tout d'accord, à tout à fait d'accord, à la question suivante. Une femme est principalement faite pour faire et élever des enfants. Êtes-vous d'accord ou pas du tout d'accord? Il y avait 4 niveaux. Pour moi, c'est un brin dirigiste comme question, déjà. Et en plus, ça englobe pas la totalité du sexisme. Ça en prend une partie. Donc là, en plus, c'est faussé, là aussi. Enfin, tout est faussé pour moi dans cette étude. C'est pas bon. Et encore une fois, je reviens sur le fait que je ne sais pas s'il y a une corrélation, si c'est la cause, etc. Mais c'est pas cette étude qui me le dit.
Non, et surtout, ce qui est étonnant, c'est pourquoi ils ont pas posé une question en lien avec l'étude. Genre, est-ce que vous pensez que les femmes sont d'aussi bonnes joueuses que les hommes?
Oui.
Tu vois, mais non, ils posent un truc sur le.
Qui est à côté.
Qui est en biais, quoi. Et tu te dis, pourquoi ça sort là, en fait? Enfin. C'est bizarre, enfin vraiment.
Et puis en plus, il y a plein de questions qui restent en suspens. Enfin là, on a répondu à rien. Enfin, c'est ça la problématique de cette étude, c'est qu'on répond à rien. Est-ce que c'est le. Enfin, des vraies études intéressantes, ça serait de déterminer est-ce que c'est le marché qui influence sur ce qui est. Enfin, qui fait ce qu'il a envie et que ça influence sur les jeunes, ou est-ce que c'est les jeunes qui demandent à avoir quelque chose et le marché répond juste à la demande, en fait. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Là, on a juste une étude qui nous dit de la merde. Et en fait, le problème, c'est qu'elle a été, comme d'habitude, sur ce genre d'études, vachement commenté, il y a eu plein de dépêches AFP, il y a eu plein d'interviews, il y a eu plein de trucs comme ça pour dire « Ah, vous voyez, en plus de la violence, ça crée du sexisme, etc. » Mais non, mais c'est faux. Enfin, c'est voilà, le vrai problème, c'est vraiment ça. C'est pas que de dire que c'est pas de légitimiser les jeux vidéo, qu'il y en a qui sont franchement limites, et il y en a, oui, où il faudrait faire quelque chose, et on peut pas se contenter de ça, on peut pas voir ça, on peut pas accepter ça. Mais il faut arrêter de faire dire n'importe quoi aux chiffres. Un jour, ça serait vraiment bien qu'on se prenne quand même des données, et qu'on se dise juste, on les analyse, et on les ressort comme elles sont vraiment. On peut pas s'amuser à se dire, bah, moi, je fais une étude, je pense que c'est ça le résultat, donc je vais tout faire pour que ça soit ça le résultat. Et c'est un petit peu ce qui se passe souvent. Et j'en ai déjà parlé dans le journalisme, le fact-checking, qui est justement cette recherche de, bah, on va voir si c'est vraiment vérifié, validé, etc. Mais faut pas oublier que c'est pareil dans le monde scientifique, où il faut vraiment, on peut pas se contenter d'une seule étude scientifique, on est obligé d'attendre, de savoir est-ce que ça a été validé, est-ce que tout est bon, est-ce que ça a été fait d'une bonne manière.
Moi, j'aimerais bien savoir, elle a été publiée, cette étude, quelque part ?
Elle a été publiée, mais... non, pas dans des magazines, pas dans des trucs un peu voilà. Extérieurs, non, pas dans juste sur leur site.
Voilà, pas dans une revue avec relecture.
Non.
C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont auto-congratulés.
Oui, ils sont juste dit, hop, regardez, et puis, c'est et puis beau, on se rappelle quand même que les jeux vidéo, c'est quand même l'endroit merveilleux pour faire une petite, voilà, j'ai un petit truc, je suis un journal et j'ai une petite place pour un petit truc de dernière minute à placer, je vais dire, quoi, les jeux vidéo, ça rend sexiste, ça fait toujours bien, ça fera cliquer, on est content. Ça fera un peu d'argent et on est bien.
Ouais, c'est ce qu'on appelle les trucs putaclic. Comme
c'est
on dit
exactement sur Internet, une étude putaclic. Et voilà. Et qu'il y a un groupe scientifique qui passe du temps sur une question. Et dans ce cas-là, restez ouvert sur la réponse, en fait. Et même si vous trouvez une réponse qui ne correspond pas à votre. Justement, à ce que vous vous attendez, c'est là où ça devient intéressant. Nous, ça nous arrive à Malacoserie, en fait. Des fois, on fait un truc, on se dit, bah tiens, on va bosser là-dessus. Et on se rend compte au fur et à mesure que on s'est complètement planté, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Et c'est là que ça devient encore plus sympa. Bah, c'est là où on se dit, ça change la donne. Mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, pas en se disant juste, je vais faire une étude pour dire que ce que je dis depuis des années, c'est ça. Enfin, si ça arrive, tant mieux, mais bon, c'est complètement con de s'obliger à le faire, quoi. Et juste pour un petit finir sur un petit truc un peu marrant, c'est que vu que cette étude était du vent et que les conclusions ne donnent pas toutes les infos, moi je vais faire la vraie conclusion de cette étude, qui est que non, enfin oui, les jeux vidéo ont une corrélation avec le sexisme, mais l'étude indique que la religion a une corrélation 3 fois supérieure à celle du jeu vidéo sur le sexisme. Et ça, l'étude n'en parle pas. Ne conclut pas dessus. Il donne juste les chiffres à un moment avec un mini paragraphe en disant au fait, voilà, bon, bah, c'est. La religion, c'est 3 fois plus. Mais les jeux vidéo, c'est mal quand même. Hein, parce que, voilà, nous, on parlait de jeux vidéo, donc on s'attendait pas à voir la religion aussi haut, mais finalement, la religion, c'est 3 fois supérieur, mais chut. Et voilà, encore une fois, c'est. Faites une étude, vous avez des résultats qui sont intéressants.
Bah, allez au bout, quoi.
Allez au bout. Ou du moins, creusez, finissez-la, votre étude. Là, pour moi, c'est un début de bout de papier un peu pourri. Qui est mal fait
et qui est orienté
et que c'est dommage quand on a une base de 13 520 élèves qui peuvent répondre à ça, où on pourrait avoir une vraie réponse et une vraie cartographie de ce qui se passe. Et ben non, on se contente de poser 4 questions de merde, et 4 questions, dans les 4 questions, il y en a une qui est sexiste. Donc déjà, vous la démarrez très très mal, votre étude.
Moi, j'ai une question, mais enfin, t'as peut-être pas la réponse, mais enfin, est-ce qu'ils sont connus pour des positions spécifiquement politiques? C'est ces chercheurs ou quelque chose
sont surtout connus pour pas aimer les jeux vidéo. En fait, c'est le gros co-signataire de la chose qui s'appelle, je sais plus, c'est Laurent, je sais plus quoi, ouais. Laurent Beg. Il a été donc très vivement critiqué parce que ça fait des années qu'il se bat à faire des études, à tenter des trucs pour dire que les jeux vidéo rendent violents, tout ça, et tout le temps en biaisant un petit peu ses études. Enfin, les résultats sont jamais vraiment nickel et c'est toujours un peu trafiqué, c'est toujours retourné. À chaque fois qu'il a sorti quelque chose, plein de scientifiques ou plein d'observateurs qui se sont tombés dessus en disant. C'est bien beau, mais enfin là, t'as vu tes résultats, donc ça va pas dans le même sens, ça, etc., etc. Là, tu vas pas au bout, tu t'arrêtes. Enfin, limite, des fois, on a eu l'impression qu'il donnait pas toutes les infos parce que ça, c'était vraiment non. Je peux pas le dire parce que là, ça me plombe mon étude. Ouais. Quoi. Et donc, ce mec-là part dans ce combat-là, et puis bon, bah, il continue là-dedans à faire encore ça, et puis ça fait parler, et puis c'est bien.
Ouais, mais c'est en ça que je vais creuser un peu sur ce monsieur parce que en fait, c'est comme plein de trucs, en fait. C'est-à-dire que pour moi, des fois, la réaction, elle se cache dans des petits groupuscules comme ça, où à côté, on va commencer à faire genre, oulala, le cinéma, c'est mal pour la population. en fait, au lieu d'être vraiment chercheur indépendant, tu te rends compte que leur filiation politique, elle est tellement pourrie que oui, forcément, leur étude, elle pouvait que aller dans ce sens-là, en fait.
C'est pour ça que bah t'as le cas du professeur Joyeux qui est pardon, je voulais pas le citer ce soir, mais j'ai dit que voilà, tu m'ouvres la porte. Professeur Joyeux qui dès 89 se présente sur des listes d'extrême droite hein, pour sauver la grandeur de l'Europe chrétienne. Donc on voit quand même qu'il a des filiations très sympathiques hein, et qui aujourd'hui, après avoir mené une lutte acharnée contre le fait de soigner les cancers par la chimiothérapie. A priori, d'après lui, ça marche pas. Et maintenant, un nouveau cheval de bataille, c'est les vaccins. Voilà, parce qu'il s'est rendu compte que ça marchait bien. Et surtout que ça lui faisait vendre des livres. Voilà. Et en fait, ce mec a toujours refusé de publier dans des revues à relecture. C'est-à-dire où on peut vérifier ce qu'on fait.
Oui, vérifier par des pairs, etc.
Mais il peut vous affirmer par A plus B avec des études un peu tordues comme ça, en tordant les chiffres dans tous les sens, que ce qu'il dit est totalement vrai. Vous voyez, c'est le, voilà. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est, tant qu'on refuse d'être relu par quelqu'un qui est neutre, enfin, ou du moins qui est extérieur à ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on a écrit.
Et encore une fois, là, c'est, on ne dit pas, et je ne dis à aucun moment qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de cause et que ça influence pas.
Non, c'est clair.
On dit juste que cette étude ne l'indique pas ou n'avance ouais, pas du tout le débat. Et qu'il y a un débat à avoir, oui, sur les jeux vidéo et sur le sexisme et sur plein d'autres choses, on en a déjà parlé. Mais bah, c'est pas avec ça qu'on va avancer.
Mais je pense, je dis ça sans aucune provocation, mais je pense que si on avait fait une étude sur les gens qui achètent des pains au chocolat le matin, les hommes qui achètent des pains au chocolat le matin dans une boulangerie, on aurait peut-être eu à peu près le même résultat que sur les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est la société qui est profondément et de façon très malsaine machiste et sexiste. C'est, voilà. Et que après, dans des strates de la société, on retrouve plus ou moins de sexisme, c'est une évidence. Par contre, je reste persuadé, alors là, je le dis vraiment après qu'on en ait parlé dans la causerie ou autre, que le jeu vidéo est un des secteurs où ça avance le plus en ce moment. C'est-à-dire où il y a des choses qui se font, où il y a des guildes de joueuses, on disait, qui se mettent en place pour dire, mais oh, il y a un moment donné, où il y a une vraie, on va dire, une vraie lame de fond un peu politique qui se met en place. Au sens changer la société, et ça c'est plutôt positif. Par contre, ce que tu soulignais, c'est la religion. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse dire, bah tiens, c'est marrant, la religion est trois fois plus le facteur que les jeux vidéo. Et ça, si on titrait ça à l'AFP, je suis pas persuadé.
Mais voilà, ça cliquerait pas. Les gens achèteraient pas, c'est le bordel, ils liraient pas ça, donc ça marche pas.
Alors que pourtant, on voit bien que la corrélation est plus forte. Et là, on veut pas le faire. Et c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait eu il y a pas très longtemps. C'est une étude sur les clubs de supporters fait par un fan de foot qui avait truqué ses chiffres au final parce qu'il s'était rendu compte que les clubs de supporters à 100% masculins où il y a majoritairement des hommes avait une proportion très forte à exacerber le sexisme, ce qui était à peu près logique, et l'homophobie au passage. Et bah du coup, il avait un peu truqué ses chiffres pour dire non, c'est pas pire ici qu'ailleurs, vous voyez.
Ça va.
Et bah on voit que voilà, quand on part avec un a priori, on peut pas faire quelque chose de fiable à la fin, quoi. C'est pas possible.
Ouais, de scientifique, de
ouais, scientifique, ou juste fiable, quoi. Ou même, je vais oser le dire, honnête, quoi.
Oui, mais c'était en ça que je voulais dire, scientifique, carré, quoi.
Ouais, voilà. Bah merci en tout cas Stan.
Oui.
Bah de rien.
C'était pas si mal pour finir cette causerie.
Ouais, c'était voilà.
Malgré que Jean-Yves trouvait qu'on faisait un petit peu le truc basique.
Bah on était voilà, c'est ça que Jean-Yves est déçu. Bon, c'est comme ça. Moi je le vivrai mal pendant deux semaines. On essaiera de faire mieux à la rentrée, Jean-Yves, je te promets.
Je compte sur vous pour vous reposer un petit peu et remonter le niveau.
Donc on va rappeler quand même aux auditrices et aux auditeurs qu'on sera pas là pendant 15 jours, enfin deux dimanches qui viennent, les deux dimanches qui viennent.
En fait, c'est-à-dire que vous réentendrez nos douces et très agréables voix, surtout la mienne d'ailleurs.
T'as un melon ce soir.
Non, c'était pour la gueule très agréable, alors que je suis hyper aigu et pas très stable. Pardon, mais on revient donc le dimanche 3 septembre.
C'est ça, ouais.
Donc dans vos petits agendas, vous ouvrez au 3 septembre, et vous mettez une petite croix comme ça, vous dites
« Jean-Yves parlera ». Oh, le soir est enfin arrivé.
Ah, le retour de Jean-Yves.
Merci.
Juste, moi, j'en profite pour remercier les gens qui nous laissent des messages à droite à gauche, qui nous font savoir qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Et puis tous ceux et toutes celles qui partagent l'émission aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autrement, par mail ou autre. Parce que bah, ça nous aide beaucoup. Et puis c'est vachement sympa d'avoir vos retours. Parce qu'en fait, l'émission, on l'a fait quand même aussi pour vous, hein, quand même. Et pour nous aussi, quand même.
Bon, bah, moi, beaucoup pour moi, quand même.
Bah, ça, on avait compris ce soir. Et voilà, non, mais c'est l'occasion de remercier tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie de causer vous aussi, si vous avez des sujets à amener, si vous êtes artiste, si vous êtes créatif, créateur, si vous avez fait n'importe quoi dans votre vie, que vous pensez que ça peut être super intéressant, lacauseriecanu@gmail.com et vous nous écrivez, puis on en discute. Et si ça colle entre vous et nous, et ben, on fera une causerie, quoi. Ben, voilà.
C'est beau.
C'est beau, hein.
C'est beau.
Ah ouais.
C'est
et en même temps, je me disais, faire une émission de radio, pas que pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu bizarre quand même, non? Sinon, on s'enfermerait dans une pièce et on se parlerait juste entre nous, quoi. Mais on ne devrait pas être écouté.
C'est pas ce qu'on fait, là.
Il y a des gens qui nous écoutent.
Il y a des gens qui. Non, attends.
Mais si, rassurez-nous, les auditeurs, auditrices, que là, vous êtes vraiment fatigués ou vous dites, bon, c'est bon, ils sont en vacances, ils vont se casser parce que là, on en a un peu marre, ce qui raconte de la merde.
Puis ils dépassent, en plus. Et 23h08, les mecs, ils n'ont rien à faire.
Ouh là là, ça, c'est les autorités canusiennes, vont pas être ravis, hein.
Ça va être foudroyant, ça.
Oui, le dieu de la radio.
Vous le connaissez.
Je crois qu'il. Bon,
on va vous laisser.
Il a un ghetto blaster sur l'épaule. Il apparaît.
Et il est hyper furax.
Bon, et ben merci d'avoir été avec nous jusque là.
Ouais,
parce que c'était pas facile.
Non, c'est vrai. On vous rappelle, la causerie, c'est sûr, donc sur les réseaux sociaux, c'est aussi sur les blogs de Radio Canu.
Ouais.
Si, moi je le refais. Parce que les gens, ils vont pas nous entendre 15 jours. Et
c'est
donc...
vrai, ils sont tout inquiets après.
Bah ouais.
Réécoutez les meilleurs épisodes sur le blog.
Oui, c'est vrai.
Passez-vous ça en podcast.
Je vous conseille de réécouter la première.
C'est pareil qu'elle est exceptionnelle. Même moi, je ne l'ai pas écouté, j'ai peur.
Ah, exceptionnel, c'est le mot. Ouais.
C'est beau.
Et ben, on se fait des bisous quand même.
On se fait des bisous.
Vous souhaite 15 jours, en tout cas, qui soient les plus agréables possibles.
Tout à fait. Et pour ceux qui bossent, bon courage.
Au charbon, c'est ça.
Ouais.
Et on fait plein de câlins. Et puis moi, je pense qu'on va même se quitter en bande continue directement. Vu comme ça, on se casserait plus tôt.
Non, attends, on va mettre ton titre. Il est trop.
Alors,
c'est parce que tu veux pas défendre ton super titre.
Alors,
du soir.
Ce soir, nous allons nous quitter avec Music Postmodern Jukebox, qui est une reprise de Seven Nation Army avec la chanteuse Halle Reinhardt. Et alors, juste pour le coup, hein, je vais continuer, parce qu'on n'a plus rien à faire de dépasser maintenant.
Pourquoi moi j'ai un truc qui a marqué Vintage New Orleans?
Voilà, c'est aussi comme ça, mais ça, c'est le style en fait.
En fait,
c'est le style qu'ils ont mis pour ça. En fait, c'est donc Postmodern Jukebox sur YouTube, vous allez voir, et c'est une super chaîne avec plein de trucs, et c'est un mec, je ne me rappelle plus de son nom, à chaque fois j'oublie, qui est au piano.
Reinhardt.
Je l'ai le nom.
Non, mais ça c'est la chanteuse.
C'est la chanteuse. Ouais.
Bon, pas autant pour moi là.
Et donc il fait venir plein de gens, il a plein de styles musicaux, il fait tout en vintage et puis c'est super classe et il fait des reprises de tout et de n'importe quoi. Ce soir j'ai fait vous passer celle de Pokémon qui est magnifique, mais on a plein de trucs possibles et c'est juste incroyable à écouter. Et là j'ai deux personnes mortes de rire dans le studio qui en peuvent plus. Donc on va vous faire des gros câlins, des bonnes vacances et à très très vite.
Allez, des bisous à toutes et à tous. Salut.
I'm gonna fight them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Cigarette.